Leader et Manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et Manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30.
Merci. Route, pont, chemin de fer, aéroport, pont maritime. Pour ne citer que ceux-là, les infrastructures des transports sont les artères vitales de notre société moderne. Voilà pourquoi nous avons choisi de dresser un état des lieux des infrastructures des transports de 1960 à aujourd'hui. Et nous allons rectifier les tirs. Nous allons recevoir aujourd'hui M. Yansinthe Djogolo et le professeur Odilon Gamela. Et renvoyé pour la semaine prochaine, il sera avec nous aussi au cours de cette émission pour nous parler des ces problèmes des infrastructures des transports. Avec M. Simon Bosso avec nous au studio, on commence avec lui. Il est temps de recevoir M. Djogolo. On va commencer avec M. Simon Bosso qui est avec nous. Lui, il va parler de la priorisation de la voie nationale. M. Simon, bonjour.
Bonjour, bonjour Bob, bonjour à nos auditeurs et auditrices. Nous sommes toujours dans la mouvance du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le 30 juin, nous avons abordé dans le cadre d'un plateau spécial le problème de la vie sociale, politique, économique, infrastructurelle de notre pays. État des lieux et perspectives d'avenir. Nous continuons donc avec cette rétrospective et perspective. Nous allons donc aujourd'hui aborder les questions liées aux infrastructures de transport et je vais introduire ce thème par la question de la priorisation de la voie nationale. Depuis l'époque de l'indépendance, nous avions une voie nationale qui nous permettait de relier les pays du sud à l'ouest en passant par l'est et les chemins de fer qui partaient du Katanga, évacuaient la production minière en partant du Katanga jusqu'à Ilebo et à Ilebo on passait par la voie fluviale. Voie fluviale pour arriver à Kinshasa et de Kinshasa, le chemin de fer Kinshasa-Matadi permettait d'amener la production minière jusqu'à Matadi pour être exportée via les ports de Matadi ou de Boma et les autres produits aussi agricoles comme le bois, le café, le cacao, l'huile de palme suivaient la même voie. Avec l'évolution de la dégradation de la situation d'après l'indépendance, on a connu une dégradation importante de voies de communication de notre pays. Et nous sommes aujourd'hui, la voie nationale n'est plus la principale voie d'exportation de nos minerais. Maintenant, nos minerais sortent à travers plusieurs ports, vers l'Afrique du Sud, vers la Tanzanie, Dar es Salaam. Aujourd'hui, on est en train de réhabiliter, on a réhabilité la voie de Lobito, qui passe par l'Angola. Et nous sommes en compétition avec les pays qui ont des ports en eau profonde, c'est-à-dire des ports qui sont sur l'océan. Parce que on aura à constater que les ports de Matadi et de Boma sont devenus de moins en moins compétitifs parce qu'ils ne pouvaient plus recevoir des grands bateaux. Et c'est ainsi que la relance de la construction du port de Banana est une priorité, un projet clé qui est longtemps attendu, qui incarne une vision de souveraineté et de développement économique national. Ce projet est très important car, comme je le disais, nous avons la concurrence des autres corridors, comme le corridor de l'Obito, qui est fortement soutenu par les États-Unis d'Amérique. Vous avez vu le président Joe Biden venir jusqu'à Luanda pour venir soutenir ce projet. Les États-Unis financent la relance de ce projet. Nous avons la concurrence du projet de pont-route rail Kinshasa-Brazzaville, qui est soutenu par le Congo-Brazzaville en face, par la communauté économique des États de l'Afrique centrale et par la Banque africaine de développement. Et ce projet permet d'amener des marchandises de nos qui viennent vers notre pays, qui passent, transitent par Pointe-Noire avant d'aller sur Matadi ou Boma. Avec la construction de ces ponts route rail, ces marchandises pourraient venir directement de Pointe-Noire sur Kinshasa et affecter, menacer même des disparitions, les ports de Matadi et de Boma et les chemins de fer Kinshasa-Matadi, ce qui serait très nuisible à l'économie de notre pays. Donc ces développements récents reflètent une prise de contrôle progressive de l'agenda international et régional sur les priorités nationales et mettent en lumière un défi crucial, la nécessité de replacer les intérêts stratégiques de la RDC au centre des décisions liées aux infrastructures structurantes. Donc la construction du port en eau profonde de Banana constitue une nécessité stratégique pour la RDC, non seulement en raison de son rôle clé dans le développement économique et la souveraineté maritime, mais c'est comme la dernière étape du parachèvement de la voie nationale. Historiquement, cette voie s'arrêtait à Matadi, accessible aux bateaux qui remontaient les biefs maritimes. Mais comme je le disais, avec l'évolution du commerce maritime international et l'essor des portes-conteneurs, ces navires modernes ne peuvent plus naviguer sur les biefs maritimes. La construction du port de Banana est donc dictée par l'impératif de connecter directement la voie nationale à l'océan Atlantique, offrant à la RDC une infrastructure adaptée aux standards du commerce maritime contemporain, tout en renforçant son indépendance logistique et commerciale. Le port de Banana étant le point final de la voie nationale, ce pont port étant en construction, mais pour qu'il soit efficace, il faut que les voies qui sont en amont, donc chemin de fer, voies navigables, routes, puissent aussi être opérationnelles. Et c'est là où mon frère Yansinthe Diogolo, ingénieur civil qui a fait toute sa carrière à l'ONATRA pendant de longues années, qui connaît bien ces questions-là, va aborder la question de l'état des lieux de la voie nationale dans ses aspects liés au chemin de fer et aux voies navigables qui doivent nous permettre de pouvoir retrouver notre autonomie, notre souveraineté sur la voie nationale, car même si ces voies de l'Obito ou la voie de Pointe-Noire était opérationnelle, rien ne nous garantit qu'avec ces pays voisins, les choses iront toujours à merveille. Nous avons connu des moments où la situation sécuritaire de l'Angola était totalement instable avec la guerre de l'UNITA, la voie de l'Obito avait été sabotée. La même chose au Congo-Brazzaville avec la guerre de Ntoumi. La voie de chemin de fer Pointe-Noire-Brazzaville était sabotée et parfois nos relations ne sont pas toujours en bonne de bon voisinage. Et il est important que notre voie nationale puisse être opérationnelle, même si on peut utiliser concomitamment des voies qui passent par les pays voisins. Voilà. À titre d'introduction, je m'arrêterai là.
Merci beaucoup à vous. Bonjour, monsieur Ansette.
Bonjour, Bob.
Merci. On rappelle que vous êtes un ancien directeur général de l'ONATRA, actuellement Société commerciale des transports et des ports. Vous allez nous parler de ce qui est Une question des rails et des voies nationales. Je rappelle encore que vous avez occupé une haute fonction dans nos différentes sociétés, précisément dans les domaines des transports. Vous maîtrisez les rouages de ces secteurs. Voilà pourquoi on va vous accorder la parole pendant quelques minutes. Mais je rappelle encore à nos auditeurs, il y a possibilité de participer en direct à cette émission à travers notre numéro 081 99 66 098. Envoyez-nous votre message à ces numéros au moment opportun. Nous allons vous lire et nous allons vous accorder la parole. Monsieur Enceinte, à vous le micro.
Bien, les sujets étant vastes, je vais me limiter à un aperçu sur le thème infrastructure fluviale, ferroviaire et lacustre. En guise d'introduction, je dois dire que l'immense territoire congolais a inspiré les premiers administrateurs de notre pays, partant de Léopold II au Royaume de Belgique, à développer des équipements de transport pour en faciliter l'exploitation. Le trafic était essentiellement axé sur le mouvement export-import. On exportait les matières premières et on importait le produit manufacturé. Les échanges interprovinciaux constituant le marché intérieur n'étaient pas très développés. Il convient de souligner que le transport fluvial, lacustre et ferroviaire dépendent directement d'une activité de production en amont. Donc il faut qu'il y ait une production pour que l'on transporte. Alors, je partirai maintenant des infrastructures fluviales et lacustres. Au 30 juin 1960, la République nouvellement indépendante a hérité d'un réseau fluvial navigable et structuré comme suit. Sur le fleuve Congo, on allait de Lualaba à Kindu, de Kindu à Ubundu, autrefois appelé Pontierville, et de Kisangani à Kinshasa. Et de Matadi à Banana, ce sont les zones du fleuve, les tronçons qui étaient navigables. Et à Banana, le fleuve se jette dans l'océan Atlantique. Sur le Kassai, on partait de Ilebo, port franqué à l'époque, à Kinshasa, via Kwamout. Sur la cuvette centrale, on avait un ensemble d'affluents du fleuve et la ligne de Mbandaka à Businga sur l'Ubangi. Sur le lac Tanganyika, on reliait le pays au Burundi et à la Tanzanie. Sur le lac Édouard et Kivu, pour les liaisons avec le Rwanda et l'Ouganda. En général, l'état de navigabilité au 30 juin était assuré par Kauka, actuelle régie de voies fluviales. La flotte composée de pousseurs et de barges était suffisante pour le transport des personnes et de leurs biens. Des bateaux courriers spécialisés pour le transport de passagers et touristes étaient programmés chaque semaine au départ de Kinshasa vers Ilebo ou Kisangani et vice-versa. Trois chantiers navals fonctionnaient à Boma, à Kinshasa Ndolo et à Boira, à Mbandaka. Le chantier, c'est un équivalent garage pour les bateaux et barges. Celui de Ndolo était très bien équipé et était le plus grand d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, la situation est préoccupante. Plus de bateaux courriers, la navigation nocturne est proscrite en raison de l'absence de balisage. La RVF est quasiment inactive. La flotte s'est réduite, souvent réquisitionnée par des forces armées ou des groupes rebelles. De plus, la baisse de la production a diminué le trafic fluvial, rendant les armateurs incapables de financer la maintenance ou le renouvellement de leurs unités. Pour ce qui est des infrastructures ferroviaires, après avoir traversé le continent d'est en ouest, d'abord pour retrouver David Livingstone, les journalistes et explorateurs britanniques Henry Morton Staley, remontant le fleuve Lualaba jusqu'à Kisangani, puis poursuivi vers Stanley Pool, les rapides en aval de Kinsuka l'obligèrent à emprunter les routes des caravanes jusqu'à Vivi, Matadi et Boma. À l'issue de son exploration, il cartographia les grandes zones du territoire futur et identifier ses ressources exploitables dans ce qui deviendra l'État indépendant du Congo, propriété exclusive du roi Léopold II. Devant l'indifférence de la couronne britannique, Stanley accepta l'offre du roi Léopold II, qui prit possession de ce vaste territoire en 1885. Notez que depuis le 15e siècle, quand Kao est arrivé, par l'embouchure en essayant de remonter, ils se butaient tous au rideau de fer, les rapides de cataracte. Donc, le premier à avoir parcouru d'est en ouest, c'est Stanley qui est parti de l'est vers l'ouest. Toutes les tentatives depuis Diego Cao pour aller d'ouest en est ont échoué avant l'arrivée de Stanley. Alors, je disais que la couronne britannique est restée insensible aux propositions d'installer et le roi Léopold II, qui était très avisé, a profité des rapports et des recherches de Stanley et il va créer beaucoup de sociétés pour, au départ, justifier l'action humanitaire et obtiendra en 1885 la création de l'État indépendant du Congo. Donc le prétexte au départ c'était des raisons humanitaires, la lutte contre l'esclavagisme, mais lui, fort des renseignements que Stanley lui a présentés, il a trouvé un intérêt pour exploiter. Alors, comment exploiter si on ne peut pas transporter rapidement et accélérer? Et fort de ces principes, il s'est battu et il a obtenu la construction de 350 km de Matadi à Kinshasa. Alors, on peut aussi signaler que au 30 juin 1960, la République a hérité près de 3500 km de voies ferrées à écartement 1067 cm, reliant notamment le Katanga à Ilebo. Cette région pauvre en cours d'eau, mais disposant d'importants gisements miniers, justifiait un tel réseau. D'autres tronçons existaient entre Ubundi et Kisangani, rive gauche, là où le fleuve n'était pas navigable, avec un écartement de 1 mètre, et puis un réseau particulier qui allait de Aketi Buta Isiro jusqu'à Mumbere, avec un écartement de 635. Donc je venais dire, ici à l'ouest, il y avait le chemin de fer Matadi-Léopoldville, aujourd'hui CFMK, long de 365 km à écartement 1067, qui remplaçait ou qui résolvait le problème de la navigation impossible entre Kinshasa et Matadi. Il y avait un autre chemin de fer à écartement 635 cm, celui de Mayumbe. Il servait à l'évacuation de la production agricole et forestière. Ayant travaillé longtemps au CFMK, vous l'avez dit, je peux témoigner son importance, l'importance du CFMK. Construit pour un trafic annuel de 5 millions de tonnes, le CFMK est une nécessité vitale. Il assure l'accès souverain du pays au commerce international. Frère Simon venait de parler tout à l'heure de problèmes qu'on peut avoir les voisins. Donc le seul accès à la mer qui ne dépend d'aucun voisin, c'est par le CFMK. Il fut un moment où, les années 75 jusque vers les années 80, le cuivre partait par rail jusqu'à Ilebo. Et d'Ilebo, il était chargé sur deux bateaux, et des bateaux à Kinshasa et de Kinshasa sur rail. À un moment donné où nos rapports, parce que les rapports avec le voisin ne sont pas difficiles seulement aujourd'hui. Il y a eu des moments où ce n'était pas possible de passer par le voisin. Le chemin de fer Matadi Kinshasa compte 35 gares, toutes reliées au poste de commandement central par un câble téléphonique. Là, je donne une notion, je dois commenter. La conduite de locomotive est différente de la conduite automobile. Celui qui conduit l'automobile, il maîtrise le choix de cette direction. Par contre, pour les rails, c'est un itinéraire tracé. Donc, il ne peut pas bifurquer, il ne peut pas improviser. Et la conduite est centralisée à partir d'un poste qu'on appelle le poste de commandement qui est à Kinshasa. Et il y a une communication du poste de commandement sur chaque gare. Bon, dans d'autres pays, on peut communiquer aussi avec le conducteur parce que pour freiner, pour croiser, nous sommes en voie unique, il faut des directives que le conducteur de la locomotive ne peut pas maîtriser seul. Donc, les 35 gares étaient toutes reliées au poste de commandement central par un câble téléphonique avec des postes relais à Kimpese et à Mbanzangungu. Chaque gare pouvait appeler ses voisines. Le système de sécurité reposait sur le bâton Webb Thompson. Bon, il faut une émission particulière pour expliquer. Le système Thompson garantit la sécurité lorsqu'on est en voie unique. Nous n'avons qu'une seule voie. Donc, je vous ai dit que la conduite n'est pas libre. Comment peuvent croiser, se croiser un train qui vient de Matadi et celui qui vient de Kinshasa? Comment se passe? Ça ne peut se faire que dans des gares. Et dans des gares, il y a des voies de croisement, comme on le dit, et le mouvement est contrôlé par un poste de commandement pour éviter des accidents. Le système Webb Thompson, il est simplement mécanique et on avait commencé à le rendre électrique de Kinshasa à Sonabata et de Matadi à Mpozo. Ce mouvement a été interrompu au moment de l'indépendance. J'ai dit que le poste de commandement communiquait par chaque gare, à chaque gare par câble. À ce moment, l'Otraco ou l'Onatra exploitaient conjointement un câble de 52 paires en raison de 26 par société avec l'ONPTZ, avec la poste. Il était possible de communiquer de Matadi ou de Kinshasa par téléphone et chaque gare pouvait appeler ses deux voisines. Une desserte existait de la voie ferrée, existait à partir de la gare Moïla Kinshasa de Marshall pour atteindre Mbanzangungu où sont érigés des ateliers centraux pour la maintenance des locomotives. Les usines de cimenterie de Lukala, la compagnie sucrière de Kulungungu ainsi que l'exploitation agro-industrielle de Kolo avec des wagons bestiaux pour amener le bétail à Kinshasa ou à Matadi étaient des clients importants pour le chemin de fer. Le parc de locomotives des lignes, je parle toujours de ce qui s'est passé aux années 60, était supérieur à 30, autant pour les locomotives de manœuvre et de transfert. On comptait environ 3000 wagons. Ça pouvait aller des fois à 5000. Cet équipement offrait aux clients une rotation maximale de 48 heures et aux passagers un départ simultané quotidien de Matadi de Kinshasa avec un croisement à mi-parcours dans la gare de Lufutoto. Donc chaque jour, il y avait un départ simultané de Matadi et à Kinshasa avec un croisement à Lufutoto pour les passagers. Alors, pour ce qui est de marchandises, quand vous confiez votre conteneur à l'époque à Matadi, à l'Otraco pour son transport, vous étiez certain que dans les 48 heures qui suivaient, vous l'avez à Kinshasa. Comme conséquence, la route nationale numéro 1 dans le parcours Matadi de Kinshasa servait de voie de secours et une voie pour les touristes. Alors, la situation actuelle est plutôt dramatique. Le parc ne compte au maximal que 4 locomotives qui ne sont pas en très bon état. Le parc de wagons qui était entre 3000 et 5000 est aux environs de 200. Les communications sont pénibles. On a volé les câbles, puisque le câble est en cuivre. Les compatriotes ont trouvé utile d'utiliser le cuivre pour d'autres usages. Et pour le moment, le chemin de fer, au moment où je parle, il est impossible d'aller de Kinshasa à Matadi. Ça, c'est la situation dont je partais de la sorte de l'indépendance, au moment où on accédait à l'indépendance, qui était très florissante. Alors, que dire du personnel? Nos braves papas qui ont remplacé les blancs, ils travaillent par imitation, comme un peu dans tous les secteurs, sauf peut-être les clergés ou les prêtres ont été bien formés. Alors, celui qui était commis à la gare, il devenait chef de gare. Ils ont travaillé comme ils pouvaient. C'est vers les années 74 que la Banque mondiale s'est intéressée à nous et on a obtenu de la Banque mondiale un plan de recrutement de cadres universitaires. Je suis de cette génération-là. Je dois dire aussi que ça s'est stoppé à un moment donné. Donc aujourd'hui, la situation est plus préoccupante. Alors, quelles sont les perspectives? Si nous cédons notre pays aux gens organisés, ils vont se frotter les mains. Je ne vous dis pas les Asiatiques et tous ceux qui sont ici en train de profiter de notre pays. Il faut très peu d'efforts, mais beaucoup de volonté. Quand vous allez au ministère des Transports, vous avez par exemple le JET, le groupe d'études des transports. Quand vous allez au ministère du Plan, il y a tout ce qui est dit pour repartir. Donc, en un mot, on est parti du 30 juin à une dégradation qui s'observe en ce moment-ci. Je crois que c'est à titre introductif. peux pas aller dans tous les détails. Et s'il y a quelques questions, nous sommes disposés à répondre.
Voilà, c'est difficile de finir dans une émission des 45 minutes et prendre toute la matière parce qu'on parle des 1960 à nos jours. Nous allons nous arrêter là pour accorder aussi la parole aux auditeurs. L'émission a deux parties. C'était la première partie. Nous allons accorder aux auditeurs la parole au 081 99 66 098. C'est les numéros pour participer en direct à cette émission. Qu'il en faut, on va nous proposer un morceau de musique et puis nous allons revenir pour vous lire.
Tous un monde sans injustice, butons ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice, quel que soit le lieu, le sol. La vie chasseur à l'évorien, même au fond des géants, nous ferons triompher le bien. Travaillons, nous vaincrons le temps, de nos cœurs nous serons contents. Travaillons, nous vaincrons le temps, de nos cœurs nous serons contents. Travaillons, nous gagnerons, tous un monde sans injustice. Et tous ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice.
Nous parlons du Congo de 1960 à 2025, les infrastructures des transports. Monsieur Chimamboso a parlé de la priorité de la voie nationale et Monsieur Yonsente Dzogolo, comme ancien directeur de l'ONATRA, a abordé le problème des infrastructures ferroviaires fluviales. Nous allons vous accorder la parole pour poser quelques questions avant peut-être de prendre cette question. Je pose cette question comme ça. Quels obstacles entravent le développement du transport fluvial en République démocratique du Congo aujourd'hui?
Sans me gêner, je vais commencer par le problème de la navigabilité. Il y a quelque temps, l'Union européenne, les Belges, ils aiment toujours ce pays. À travers l'Union européenne, ils avaient mis un crédit d'environ 60 millions d'euros. L'intitulé du projet, c'est projet d'appui d'aide à la navigabilité. J'ai survolé en disant que la navigation de nuit n'est plus possible. Le balisage, parce qu'ici on ne parle pas de dragage, on parle de balisage. Le balisage, c'est ce qui sont les signaux implantés par la régie des voies fluviales pour indiquer les endroits où le bateau peut passer sans échouer, c'est-à-dire sans heurter les bancs de sable, là où il y a un tirant d'eau qui permet au bateau de flotter. Donc pour le moment, le problème le plus important est celui-là. Alors dites-vous bien que quand on a commencé à implanter les signaux, nous avons un problème toujours et de volonté de discipline. Les riverains, ils enlèvent les signaux parce qu'ils se sont créés un nouveau métier. Au lieu d'aller pêcher, mais ils sont en train de se définir comme des guides. Parce qu'ils sont riverains, ils connaissent les zones. Et les armateurs et les bateaux doivent payer un droit, et ainsi de suite. Donc, c'est un problème très complexe. Il faut qu'on mette les balisages, les signes de balise. Il faut les protéger. Et il faut que les riverains comprennent que c'est important pour faciliter la navigation. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, j'ai fait allusion au chantier naval. C'est des garages à bateaux. Nous avons le chantier naval de Ndolo, pour le moment, qui avait un dock. Le dock, c'est un dispositif qui permet de mettre à sec soit le pousseur, soit les barges, et travaille. Il est en panne. À Boma, on arrive à servir par un dock flottant qui était récemment acquis. À Boira, pour des problèmes d'énergie et d'organisation, le chantier naval, il est presque fermé. Et là aussi, il n'y a plus de flotte. Donc le premier problème, le balisage du fleuve. Le deuxième, les chantiers navals, ils ne sont pas en bon état. Et le troisième qui n'est pas des moindres, qu'est-ce qu'on transporte? Qu'est-ce qu'on produit à l'intérieur du pays? La production a baissé de partout. On partait de Kisangani, on amenait des produits agricoles, de l'huile de palme, de caoutchouc, et il n'y en a plus assez. On travaille un peu moins, on fait un peu plus de politique maintenant. Donc, ça met aussi les transporteurs en difficulté. Il n'y a pas un tonnage offert au transport qui puisse. Ça, je mets ça en troisième position.
Voilà. Merci beaucoup. Je pense que le micro est réactivé. 081-99-66-098. Je prends la question de Ernest Nzumbi qui pose deux questions. D'abord, il félicite l'idée de faire le bilan parce que nous devons faire le bilan et proposer pour l'avenir de notre pays. Il pose la question, quel rôle jouent les fleuves Congo dans les transports intérieurs du pays? Et la deuxième question, les chemins de fer a-t-il connu une modernisation depuis la Société nationale des chemins de fer du Congo? Il pose la question s'il y a maintenant une modernisation. Voilà les deux questions d'Ernest.
En géographie, quand vous prenez la carte de notre pays, c'est ce que les premiers administrateurs, que ce soit Léopold II ou le Congo belge, nous avons un fleuve qui part de l'est et qui passe par le nord. Et nous avons dans la cuvette centrale un réseau d'affluents. Alors, pour faire simple, les premiers administrateurs, ils n'ont assuré que les bons balisages et une bonne réglementation. Et ils exploitaient le fleuve Congo qu'on appelle le boulevard naturel. Avec comme conséquence, on a construit les chemins de fer que là où ils n'étaient pas navigables. J'ai dit Ubuntu Kisangani et Matadi Kinshasa. Donc, le rôle du fleuve, il est déterminant. C'est le boulevard naturel que Dieu nous a offert. Je crois que j'ai répondu à la première question. La deuxième, je suis en train de me répéter en disant que les meilleures années, les plus récentes, c'est vers les années 75-76, où le cuivre partait du Katanga pour Ilebo, et d'Ilebo, il prenait le bateau pour Kinshasa, et de Kinshasa, il prenait le rail pour sortir par la voie nationale. Ça signifie quoi? Il faut qu'on ait une charge à transporter. Aujourd'hui, le trafic Matadi Kinshasa sur rail donne un déséquilibre total. On n'exporte rien. On importe tout. On importe du riz, du sel, on importe tout. Ce serait dans un sens. Et malheureusement, pour certaines raisons, les gens ont étendu les chariots automobiles, ne se rendant pas compte que la route nationale n'était pas dimensionnée pour ce trafic-là. Donc le chemin de fer de 1960 aux années 74 a connu une modernisation à partir de 74. À la construction, on était à 635 mm. On est passé à 1067 avec du rail de 40 kilos. On est passé des rails 33 kilos au mètre au rail 40 kilos. Ça donne quel avantage? C'est la charge à l'essieu. On a des wagons plus importants. Alors, à partir de 1974, on a modernisé les plans, on a rectifié quelques tracés, on est passé à du rail 50 kilos, où on a une charge de 22 tonnes à l'essieu. Ça devait permettre de prendre des wagons plus lourds et plus importants. Malheureusement, cette modernisation a conduit à une mécanisation de l'entretien en réduisant les effectifs. Je donne un exemple. Pour entretenir 50 km de voie, on devait mettre les cantonniers du rail qu'on appelle poseurs, on devait avoir des équipes de 80 personnes. En 1974, quand on a modernisé, on a pris du rail plus lourd, on a mis des engins pour l'entretien de la voie. Les effectifs passaient de 80 à 35. En moyenne pour un parcours que j'ai défini de 50 kilos. Aujourd'hui, nous n'avons ni les machines, ni les hommes. Donc, la situation aujourd'hui, je répète, elle est catastrophique. Mais elle est facilement récupérable aussi. Voilà.
Merci, merci à vous. Nous allons prendre la question de Jean-Jacques Okito. Quels étaient les principaux réseaux des transports hérités de la colonisation en 1960? s'il faut renchérir sa question. Vous l'avez d'ailleurs dit ici, il y avait un problème des personnels au début. Vous êtes parmi les universitaires récrités. Qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est par rapport à sa question. Principaux réseaux des transports hérités de la colonisation en 1960.
Je l'ai dit. Au sud-est, on avait les KDL, qui est aujourd'hui SNCZ, avec environ 3500 km. On avait les chemins de fer vicinaux, c'est à peu près 800 km qui partaient d'Aketi, Isiro, Mumbere. Et ici, au sud-ouest, on a Matadi, Kinshasa, avec nos 365 km. Ça, c'est le réseau construit par les Belges et que nous avons hérité. Alors, la question sur le personnel. Bon, le personnel, je venais de parler de l'option prise vers les années 74-80 de la mécanisation. C'est-à-dire, quand vous mettez les machines, vous réduisez les effectifs. Mais aujourd'hui, on n'a ni les effectifs, ni les machines. On est dans une situation très difficile.
Une question posée à M. Simon Bosso. On vous pose la question. On dit... Quel impact des infrastructures de transport sur l'économie congolaise, vous qui parlez de l'économie actuellement avec ces problèmes des transports? C'est M. Félicien depuis la paroisse Saint-Augustin à Limba.
Merci beaucoup à notre frère Félicien. Déjà, je crois que c'est Stanley ou Diopold II qui avait dit que ce pays ne vaut pas un penny sans chemin de fer.
C'est Stanley.
Donc, les voies de communication, la connectivité du territoire. Nous avons un pays tellement vaste, 2 345 000 km², avec, les ressources, on en parle toujours. Nous avons les minerais, et au sud et à l'est, nous avons le bois, à l'équateur, nous avons la production agricole. Pas d'économie compétitive et performante sans des voies de communication performante et efficace. Aujourd'hui, par exemple, l'agriculture congolaise, la plus grande contrainte de notre agriculture, c'est le mauvais état des routes. Je l'ai dit à notre émission du 30 juin, un grand géographe, professeur à la Sorbonne, a dit, parlant de notre pays, que l'état des routes dénote de la déroute de l'état. Un pays sans voie de navigation, sans voie de communication performante, des routes qui ne sont pas efficaces, là où les autres peuvent faire 2 heures pour traverser 200 kilomètres, nous, on est arrivé à des périodes où on passait une semaine pour arriver à atteindre Matadi. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de routes. Vous voyez les embouteillages que nous avons ici. Moi, j'étais à Kisantu, à donner cours à l'Université Congo. J'ai quitté à 10 heures du matin pour arriver à Kinshasa à 19 heures. 9 heures de route sur un tronçon de 120 kilomètres. C'est fou. Voilà. Donc.
Oui, monsieur Hersen.
Je voudrais. Parce que je suis là pour le chemin de fer. J'ai un livre devant moi qui date de 1948 et il est dit clairement ici que la construction de voies ferrées était indispensable afin de trouver des moyens économiques et accélérés de transport en comparaison au portage manuel. Donc quand nous parlons de Stanley et de Livingstone, c'est nos ancêtres qui étaient de porteurs. Donc une seule personne sur le route des caravanes, on pouvait aligner 350 porteurs. Alors, et ils venaient prendre de l'ivoire, ils venaient prendre des produits, et ce n'est pas suffisant. Alors, plus près de nous, j'ai été avec un DG d'une cimenterie. Nous avons Simco, nous avons Sinat, et nous avons
PPC,
nous avons Zilou. Maintenant, il y a un directeur général d'une société, parce que je ne dois pas faire la publicité, il me dit, monsieur Zogolo, ça ne va pas avec vous. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ça fait 16 jours que je n'arrive pas à évacuer ma production vers le lieu de consommation, Matadi ou Kinshasa. Et par jour, j'enregistre une perte de 500 000 dollars. Dans 16 jours, c'est 8 millions. Alors, si vous faites la route aujourd'hui du Bas-Congo, vous allez voir qu'on ne peut pas circuler. je me répète, je dis la voie, c'est une voie touristique et une voie de secours. Maintenant, quelque part, j'ai entendu dire qu'il y a des projets de faire une autoroute Moanda Kinshasa, en fonction de ce que disait Frère Simon pour le port de Matadi. Port de Banana, port en eau profonde. Donc il faut soutenir ça par un transport, par des autoroutes. Vous devez avoir 3 ou 4 bandes de circulation de part et d'autre. Alors la question que j'ai posée, j'étais dans une réunion, j'ai dit mais alors on sacrifie les chemins de fer, on doit avoir les deux moyens concomitants. Donc ici, le roi de Léopold II, c'est l'équivalent chef de l'État, c'est sa préoccupation. Il ne pouvait rien tirer du Congo s'il n'organisait pas ces transports-là. Donc à ce niveau-ci, retenez que les transports par grand camion d'un sac de ciment et les transports par rail, les prix sont différents. Donc il faudrait un jour qu'on réhabilite. Et ce jour-là ne doit pas être lointain. Rapidement le chemin de fer pour une évacuation à moindre coût. Parce qu'il n'est pas normal. En Angola, le ciment, il est à 1,5, à 2 dollars. Ici, à Kinshasa, on le vend à plus de 10 dollars. Et quand vous faites l'analyse, le coût de transport, il est important. Donc, l'importance des moyens de transport, ça influe sur le coût au consommateur.
Très bien. Nous allons écouter Joseph Desmarie.
Bonjour Bob, bonjour cher papa et bonjour cher professeur. Merci beaucoup pour cette très belle émission. Hein. Bon, les infractions fluviales, voire forêvières avant 1960, là on n'était même pas né. Mais à travers l'histoire que l'on a apprise à l'école, j'ai une préoccupation. Pouvez-vous, cher professeur, affirmer que les pillages du Congo hein, depuis que nous avons connu en 1990, ces pillages-là ont commencé en fait depuis avant 1960, suite à un réseau fluvial voire forêtière conçu par les colons principalement pour l'exportation de nos ressources de nos matières premières ou de nos ressources par les colons au détriment des autochtones qui, bon Dieu, étaient encore sous l'esclavagisme des colons. Hein, n'oubliez pas le fouet qu'a connu nos ancêtres. On les coupait les mains, les mains, n'est-ce pas? D'autres allaient même dans l'exploitation des caoutchoucs. Vous connaissez cette histoire avec Léopold II. Hein? Et de surcroît, nos aïeux, nos ancêtres, les autochtones étaient la plupart illettrés. Hein? Même s'il y avait parmi eux quelques autochtones qu'on appelait les évolués par-ci par-là. Et en plus, à vous entendre parler, cher professeur, on dirait que la construction des infrastructures fluviales et forestières dépendait à cette époque-là largement des entreprises étrangères, voire des entreprises de colons. Conséquence, cela a limité un peu la capacité du pays, notre Congo et aujourd'hui la RDC, à développer, à prendre son envol, hein, à développer son propre secteur de transport, que ce soit fluvial ou forestier, ou ferroviaire, pardon. D'où ma question. Aujourd'hui, on parle d'un grand deal entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Êtes-vous optimiste ou sceptique à ce deal-là, qui, selon le gouvernement congolais, est une occasion de pouvoir développer la RDC dans un contrat gagnant-gagnant, 50-50? Merci beaucoup, très cher professeur.
Nous restons dans les secteurs de transport.
Joseph de Marie, il n'y a pas un professeur ici. Il y a frère Simon et puis il y a frère Hyacinthe. Nous ne sommes pas des professeurs. Nous sommes peut-être des praticiens. Et en ce qui me concerne, j'ai travaillé pendant longtemps au chemin de fer Matadi Kinshasa. Et j'ai pris ma retraite. Alors, il y a des aspects que je ne voudrais pas aborder. Je voudrais simplement attirer votre attention que Léopold II, c'était le propriétaire de l'État indépendant du Congo, qui a profité des rapports de Stanley. Je reviens là-dessus rapidement pour dire que c'est Stanley qui, le premier, a parcouru d'est à l'ouest notre pays, il a retrouvé Livingstone, il a remonté le cours du fleuve, il est passé par Kisangani, là on parle de Stanley, les chutes de Stanley, Stanleyville, et il est venu ici à Stanleypool et il a continué jusque Boma. Donc lui, partout où il passait, il faisait une cartographie et il a identifié des ressources qui pouvaient être exploitées. Il a présenté ça à la couronne britannique, il n'a trouvé aucune réponse. Léopold II, lui, il en a profité. Les méthodes d'exploitation ne nous importent pas. Nous, notre problème, c'est que dans le système d'exploitation, que ce soit les produits agricoles, que ce soit les produits miniers, il fallait une infrastructure de transport ferroviaire. Les rails permettent d'évacuer des grandes masses rapidement et en sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, notre problème, au 30 juin, si vous consultez les statistiques, nous avions un niveau de développement économique supérieur à la Corée du Sud. Les gens partaient de Johannesburg pour Elizabethville et à l'université jusque vers les années 80. Nous recevions beaucoup d'étudiants africains qui venaient étudier ici parce que les conditions de vie étaient nettement meilleures. Donc, nous soutenons que l'infrastructure ferroviaire bien organisée permet des échanges économiques efficaces avec comme avantage la réduction du coût de transport qui influe sur les consommateurs. Donc, nous, nous voulons croire que notre pays, qui a d'abord eu des deals avec les Chinois et qui a eu encore une correction avec les Chinois et qui aura des ressources avec les Américains, va profiter de cela pour revaloriser, étendre éventuellement les infrastructures de transport. Je m'arrête là.
Bon, merci beaucoup à vous, M. Hyacinthe Zogolo. On avance vers la fin de l'émission, mais une question. Comment la crise post-indépendance 1960-1965 a-t-elle affecté les infrastructures des transports? C'est sali depuis la paroisse Saint-Benoît. J'ai voulu poser la question aussi sur les... Bon, voilà, là, ça ne nous concerne pas. Nous prenons l'unique question de notre frère depuis Saint-Benoît.
En 73, une décision politique a été prise dans ces pays, la zarénisation. Et on a trouvé des compatriotes qui sont devenus acquéreurs. Beaucoup ont acquis même des barges de l'Otraco de l'époque. Selon quelle méthode, je ne sais pas. Et ça a affecté. Là où il y a eu des troubles, on a détruit l'infrastructure. Toutes les rébellions à l'Est ont toujours entraîné la destruction des infrastructures. Il faut avouer que durant les 80 ans, il n'y a pas eu autant de mouvements rebelles qu'il y en a après 1960. Je peux m'arrêter là.
Nous poursuivons l'émission. D'ailleurs, on avance déjà vers la fin parce qu'il nous reste 2 minutes pour finir. Je vois quelqu'un qui nous envoie un message sonore, mais c'est un message sonore de 5 minutes, impossible parce qu'il nous reste quelques minutes seulement. Nous allons terminer par là. Voilà, ça tombe à pic.
Oui, Bob.
Voilà, on nous signale qu'on peut continuer avec les questions en attendant. On pose cette question. Bonjour Bob, bonjour Monsieur Simon. Je salue les leaderships de Monsieur Simon d'élargir les champs avec les spécialistes. Monsieur Hyacinthe, que j'aime beaucoup, vous avez été là où les décisions étaient à votre portée. J'ai lu comme vous avez écrit, étaient à votre portée. Quand on regrette les lignes ferroviaires, qu'avez-vous fait? Parce que nous voulons aussi connaître votre apport dans ces secteurs. Je vous aime beaucoup. Merci. C'est depuis Kikwit. C'est Monsieur Abeti.
Il a raison. Il a raison. Ben, nous n'allons pas nous jeter la balle. Nous n'allons pas nous dérober non plus. J'ai été président d'un comité de gestion. On aura une autre occasion pour dire comment travaille un DG aujourd'hui. Vous allez suivre à la radio ou dans une certaine presse un DG qui dit qu'il a payé son personnel. Ça n'arrive qu'aux entreprises du portefeuille congolais. Jamais un DG de Bralima, de Coca-Cola, de Fina dira qu'il a payé son personnel. Parce que ça fait partie des charges fixes de l'entreprise. Ce sont les moyens de production. Donc ici, quand nous travaillons, c'est juste pour payer le personnel. C'est-à-dire le circuit économique, il est fortement perturbé. On va commencer par la loi. Quand l'ONATRA preste, il y a deux méthodes de perception. Il y a le port perçu, c'est-à-dire vous me demandez un service, vous payez avant que je vous rende le service ou au moment où je rends le service. Ou alors, vous payez à terme. Aujourd'hui, si vous allez par exemple à l'ONATRA, l'ONATRA détient une créance sur l'État. Ce qui n'est pas normal. Et l'État comme structure et l'État comme certains animateurs de structure. Ça, c'est d'une chose. Les conseils d'administration dans des sociétés organisées regroupent les représentants des actionnaires. Ici, on a l'actionnaire unique, l'État. Donc, tout DG que vous pouvez être, vous n'êtes pas libre de prendre vos décisions. Et qui vous avez comme actionnaire, ce n'est pas nécessairement comme administrateur dans le comité, ce n'est pas des actionnaires. Et les choses ne sont pas aussi simples que cela. Non, malheureusement, dans ces pays, il arrivera un moment où les gens vont commencer à démissionner parce qu'il ne sera pas possible de travailler. Donc, en ce qui me concerne, j'ai eu 9 ou 8 mois, alors qu'une entreprise de cette dimension-là, il faut arriver, on loue, on félicite un blanc, le dernier qui était là panique, mais il a mis 8 ans. Quand il a 8 ans, il a au moins 2 années pour poser le diagnostic. Il a au moins 2 années pour négocier auprès de bailleurs de fonds. Quand je parle de la Banque mondiale en 1974, c'est son travail. Il a présenté un plan de modernisation. On a acheté des barges, on a modernisé les rails. On ne s'est pas limité là. On a recruté des cadres que nous sommes. Les choses ne sont pas simples, mais quand vous arrivez le temps de vous asseoir et puis demain vous n'êtes plus là, vous ne pouvez rien faire. Voilà, c'est quelques éléments que je donne.
Monsieur, je vais ajouter quelque chose.
Je travaille beaucoup sur les entreprises publiques comme consultant. Comme disaient les frères Jogolo, j'enseigne, mais je ne suis pas professeur des métiers. Nous enseignons comme experts. C'est dans beaucoup de pays, cela se passe comme ça. Mais il y a un véritable problème de gestion dans les entreprises publiques. Ça fera partie de nos émissions.
Nous citons déjà.
Donc, il y a beaucoup de contraintes. J'ai produit un document aux états généraux du portefeuille, notamment l'État qui est à la fois actionnaire, l'État qui est à la fois client, l'État qui est à la fois puissance publique. Et ce n'est pas toujours facile pour les gestionnaires, dans ces conditions-là, de donner le meilleur d'eux-mêmes.
Merci, merci beaucoup à vous. On vous dit merci. Merci à M. Simon, merci à M. Yonsainte. On va vous retrouver très prochainement. L'émission à suivre aussi sur notre site web, le www.radiomaria.cd. Portez-vous bien, restez nos fidèles. Au revoir.
Merci. Nous rappelons quand même nos numéros de téléphone.
Allez-y.
085 051 720. Je salue la sœur Ernestine, des sœurs des pauvres à Wadiadingui. Bonne semaine à tous et à toutes.
Leader et manager, une mission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager.